Santé Beaujolais Dombes.
L'émission de santé du territoire.
100.9 Calade.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Une heure d'émission pour échanger sur l'actualité de la santé du territoire Beaujolais Dombes. Vous pouvez retrouver l'émission Santé Beaujolais Dombes en podcast sur le site internet de Radio Calade, également sur la page Facebook et sur le site internet de la CPTS ainsi que sur la page Facebook. Cette émission est préparée par l'équipe radiophonique de la Communauté Territoriale de Santé Beaujolais Dombes et animée par... Alors, est-ce que je vais faire l'erreur ou pas cette fois-ci ? Alexandra !
Bravo, bonjour !
Bonjour, Marie !
Bonjour !
Cécile !
Bonjour !
Yes ! Et Amaury !
Bonjour !
Bonjour ! Aujourd'hui, nous allons parler bronchiolite. Donc, c'est une maladie virale qui est courante, qui touche les voies respiratoires inférieures et qui se voit chez les nourrissons et chez les jeunes enfants. Elle est généralement causée par un virus qu'on appelle le VRS, mais il en existe d'autres formes. En France, on estime que la bronchiolite touche chaque hiver près de 30% des nourrissons de moins de 2 ans, soit environ à peu près 480 000 cas par an. 2 à 3% des nourrissons de moins de 1 an seraient hospitalisés pour une bronchiolite plus sévère chaque année. La maladie commence souvent par des symptômes similaires à ceux d'un rhume, avec un écoulement nasal, une toux, une légère fièvre. Quelquefois, la toux est persistante, s'accompagne d'une respiration sifflante, avec une gêne respiratoire pouvant être sévère dans de rares cas. La bronchiolite est plus fréquente durant les mois hivernaux, car elle se propage facilement par les gouttelettes respiratoires. Le système immunitaire des nourrissons étant plus immature, moins efficace, la bronchiolite est une maladie fréquente chez les tout-petits. La plupart du temps, la maladie est bénigne. Mais il convient d'identifier les signes cliniques pour les jeunes parents, de consulter un professionnel de santé pour diagnostiquer la maladie et de connaître sa sévérité en cas de doute. Comme toujours, deux temps dans notre émission. La première, où nous allons découvrir la maladie avec ses facteurs d'apparition, son évolution. Nous découvrirons les symptômes que l'enfant développe au fur et à mesure d'évolution. Nous verrons quand s'alerter et quand consulter. Dans un second temps, nous nous concentrerons sur la place du traitement dans la phase d'état, mais également de la prévention pour éviter cette maladie ou tout du moins pour en réduire la symptomatologie. Nous passerons en revue les autres troubles hivernaux également que peuvent présenter les nourrissons. Pour en parler ce soir avec nous, le docteur Céline Lagrange, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin pédiatre en exercice libéral.
Oui.
Sur Belleville.
Sur Belleville.
En Beaujolais. Merci de votre présence. Comment se définit cette maladie, cette bronchiolite ?
Alors, la bronchiolite, c'est donc, comme vous l'avez dit, un virus qui va venir attaquer les bronchioles, les toutes petites bronches des petits bébés. Elle commence par un rhume, tout simplement, une petite toux. Et il faut savoir qu'elle va évoluer sur 2 à 3 semaines. La première phase va être suivie d'une phase de plateau où la toux va être beaucoup plus intense, en longue quinte. Le bébé va être fatigué, il va avoir du mal à manger, il va avoir parfois du mal à respirer. Et après, on arrivera à une seconde phase qui est appelée la phase grasse où la toux va être du coup beaucoup plus grasse avec des glaires, ce qu'on appelle des glaires. L'enfant va être moins fatigué mais va tousser longtemps.
Quel geste peut-on faire pour éviter ce type de maladie chez le tout petit ?
Alors, les bronchiolites sont toujours dues au virus, majoritairement le VRS, donc le principal virus en hiver, mais aussi d'autres virus. Ce virus se transmet par les petites gouttelettes que l'on peut cracher dans l'air, mais aussi ce virus reste sur les surfaces, sur nos mains et sur tout ce qu'on touche. Donc, il est très, très contagieux. Pour l'éviter, il faut donc éviter d'être en contact par les mains et par les gouttelettes avec des personnes malades. Il faut savoir que la bronchiolite atteint les bébés, mais en fait, ce virus atteint tout le monde. Chez les grands enfants, chez les adultes, ça donne un simple rhume avec une forte toux. Et en fait, c'est principalement nous, les adultes, qui allons transmettre ce virus aux petits bébés.
Donc au quotidien, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Le masque comme pour le Covid, s'il y a un parent qui est malade par exemple, ou Est-ce qu'il faut aérer? Qu'est-ce qu'on fait?
Tout à fait. Le masque peut être un bon réflexe que l'on va garder depuis le Covid pour toutes les maladies qui peuvent être graves chez d'autres personnes. Donc, quand on est parent, qu'on a un rhume, on porte un masque quand on s'occupe de son petit bébé qui est un peu plus fragile face à ce virus. Surtout, on aère énormément les pièces, même en hiver quand il fait froid. Et puis, quand on sait que ça se transmet aussi par le contact, on se lave les mains énormément et on désinfecte toutes les surfaces que l'on touche souvent, poignées de porte, poignées de...
Ça, c'est des mains qu'il faut prendre aussi quand on n'est pas malade, quelque part, parce qu'on peut être porteur, finalement, en étant un peu asymptomatique, enfin, sans parler du masque, mais désinfecter, se laver les mains, tout ça...
Bien sûr, ça c'est des réflexes qu'on va prendre pour éviter toutes les maladies, se laver les mains régulièrement, aérer beaucoup les maisons. Et la dernière chose aussi très importante à laquelle on ne pense pas beaucoup, c'est en période d'épidémie, éviter d'emmener son bébé dans des endroits où il y a beaucoup de monde, les transports en commun, les magasins, les fêtes, etc.
Ce qui n'est pas toujours évident, du coup.
C'est sûr qu'il faut continuer à vivre aussi et qu'on ne peut pas éviter à 100%, bien sûr.
Et puis, on prévient aussi les personnes, les grands-parents ou les personnes qui veulent venir voir le bébé, que s'ils sont enrhumés, ils ne s'approchent pas trop près, quoi.
Bien sûr, c'est difficile, mais c'est vrai qu'un tout petit bébé qui vient de naître est sensible et peut vivre très mal toutes les maladies virales et qu'il vaut mieux repousser sa vie de quelques temps quand on est malade.
Est-ce qu'il y a des bébés qui sont plus sensibles que d'autres ?
Alors évidemment, il faut surtout être prudent pour des bébés à risque. Alors tous les bébés qui viennent de naître jusqu'à en moyenne l'âge de 6 semaines vont vivre une bronchiolite beaucoup plus difficilement et vont pouvoir faire des formes plus graves. Évidemment, les bébés qui sont nés prématurément, surtout s'ils ont eu des difficultés respiratoires lors de leur hospitalisation. Et puis, il y a tout plein d'autres pathologies particulières que les médecins qui suivent les enfants vont informer les parents de la gravité vis-à-vis de la bronchiolite.
Au niveau des parents, justement, à quel moment il faut s'inquiéter quand on a un enfant qui est malade, quand est-ce qu'on différencie un simple rhume d'une bronchiolite finalement ?
Eh bien, c'est pas facile. Quand on sait que la bronchiolite commence par un rhume et une petite toux, et puis que la toux dure, ça ressemble à n'importe quel autre virus qui ne va pas forcément avoir les critères de gravité de la bronchiolite. Donc, quand est-ce qu'on va s'inquiéter ? Pas forcément dès que l'enfant tousse. C'est vrai que la majorité des bébés vont quand même pouvoir passer leur bronchiolite sans qu'il n'y ait rien de grave. Par contre, les critères de gravité, les choses qui vont inquiéter les parents et devoir faire consulter, que ce soit leur médecin en ville, que ce soit aux urgences si vraiment on est très inquiet, ça va être, comme je l'ai dit, les facteurs de risque. Donc si le bébé est tout petit, là, il ne faut vraiment pas attendre dès qu'il commence à tousser. Sinon, ça va être s'il présente une gêne respiratoire. Et là, ça va nous donner un bébé qui va être très fatigué, qui va avoir du mal à respirer pour téter, que ce soit au sein ou au biberon. L'autre chose, le principal critère de gravité de la bronchiolite, ça va être les apnées. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Ce virus atteint les centres respiratoires du cerveau et va créer des apnées, des pauses respiratoires. Et c'est ça qui est grave, et notamment chez les tout petits bébés. Donc il va falloir surveiller son enfant, l'observer, l'avoir pas loin de soi, notamment la nuit, tout le temps. Et si on observe des pauses respiratoires de plus de 10 secondes avec éventuellement les lèvres qui deviennent un peu bleues, là, il ne faut absolument pas attendre et tout de suite l'emmener aux urgences.
Oui, là, on est déjà dans un cas rare.
C'est un cas rare, mais c'est le
critère de gravité. Quoi.
Voilà, c'est la principale chose qui fait la gravité des bronchiolites en France.
On a pas mal entendu parler d'un vaccin contre la bronchiolite. Est-ce que c'est un vaccin ? Est-ce que ça peut se faire ? Comment ça se passe ?
Alors, ce n'est pas réellement un vaccin, c'est une injection d'anticorps dirigée spécifiquement contre le VRS, qui est le principal virus qui donne des bronchiolites, et celui qui donne les bronchiolites les plus graves. Donc c'est simplement des anticorps, l'enfant ne va pas avoir à déclencher une réaction immunitaire comme un vaccin. Ces anticorps vont être tout de suite présents, donc tout de suite efficaces. Ils vont tout de suite aller se fixer, si le virus rentre chez le bébé, ils vont aller se fixer et le neutraliser. Et l'efficacité de ce médicament, qui est par voie injectable, va durer en moyenne 5 mois et donc va protéger pendant toute la durée de l'épidémie, qui dure en général d'octobre à avril.
Ça veut dire qu'une fois que l'injection elle est faite, donc c'est une piqûre, tout de suite le bébé est protégé.
Voilà. Ça veut dire aussi qu'il ne va pas déclencher de réaction, il n'y a pas d'effet secondaire particulier suite à l'injection. Mais par contre, ça ne protégera que pendant 5 mois.
Et donc là, les parents de nouveau-nés peuvent aller voir leur médecin ou leur pédiatre pour faire ces anticorps, alors ?
Tout à fait. C'est des anticorps qui existent depuis longtemps, que l'on fait depuis très longtemps chez les grands prématurés. Il était réservé aux grands prématurés parce que cher, mais c'était des injections à faire tous les mois. Cette année est sortie en France une forme qui donc dure 5 mois et nécessite une seule injection en début d'hiver et qui, du coup, au vu de l'énorme épidémie qu'il y a eu l'année dernière, a été proposée, financée pour tout les bébés à risque, c'est-à-dire tous les bébés qui ont moins d'un an pour ce premier hiver. Les parents de tout bébé qui a moins d'un an peuvent donc aller voir leur médecin ou leur sage-femme pour avoir une prescription, récupérer ce médicament en pharmacie de manière gratuite et pouvoir faire l'injection chez le bébé. Malheureusement, les doses arrivent au compte-gouttes, mais elles arrivent et on a bon espoir de pouvoir protéger la majorité, la grande partie des bébés pour cet hiver.
Et est-ce que c'est proposé dès la maternité ?
C'est évidemment proposé dès la maternité et en priorité à la maternité. Pourquoi ? Parce que ce sont justement les tout jeunes bébés qui viennent de naître qui sont le plus à risque de formes graves.
Est-ce qu'il est pertinent de laver le nez des tout petits bébés lorsque une personne de la famille est enrhumée ou présente des signes d'un VRS pour le protéger, ou c'est quelque chose de pas efficace ?
Alors, si c'est vraiment uniquement pour le protéger, non, ça ne va pas éviter qu'il attrape la maladie. Par contre, c'est évidemment pertinent et c'est même la seule chose indispensable à faire si la maladie se déclare chez le bébé. Donc, dès que le bébé commence à avoir le nez un petit peu pris, il faut évidemment et beaucoup, et surtout, et principalement, lui laver le nez. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, release my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. To be the only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together, we're happy together.
Santé Beaujolais d'Ombes, l'émission de santé du territoire. Vous êtes sur Radio Calade et vous venez d'écouter
Happy Together de The Turtles.
Merci. Au niveau de la bronchiolite, si on parle traitement maintenant, quels sont-ils ?
Alors, il faut déjà savoir qu'il n'y a aucun médicament qui soit spécifiquement prescrit pour la bronchiolite. Il n'y a aucun médicament qui puisse diminuer ni la gravité ni la durée de la maladie. Du coup, ça va être uniquement des traitements pour soulager l'enfant et éviter qu'il soit trop gêné. Le principal et unique traitement, comme je disais tout à l'heure, c'est de laver, dégager le nez des enfants, parce que ce virus va venir faire fabriquer beaucoup de mucus à toute la muqueuse respiratoire, du nez jusqu'au fond des petites bronches. Il est impossible d'aller laver jusqu'au fond des petites bronches. Par contre, ce nez, on va pouvoir aller fluidifier ses sécrétions en injectant donc du sérum physiologique dans le nez à l'aide de pipettes ou de seringues. Et ça va permettre de dégager la respiration par le nez. Le bébé va avaler tout ça, ou leur vomir, leur cracher. Ça finit dans les selles, on s'en fiche. On veut dégager les voies respiratoires. Et ça, il va falloir le faire le plus souvent possible. Il n'y a aucun risque à le faire souvent et beaucoup. Notamment avant de le coucher et avant la prise des repas, afin qu'il puisse respirer par le nez. L'autre chose qu'on va pouvoir faire pour soulager le bébé, ça va être de fractionner l'alimentation. On a dit que le bébé était très fatigué, qu'il avait du mal à surtout donc boire le lait. Et donc, on va lui donner des plus petites quantités et à ce moment-là, un petit peu plus souvent, plus régulièrement dans la journée pour qu'il ait quand même tout ce qu'il lui faut.
Et au sein, quand les bébés sont allaités, comment doit faire la maman du coup ?
Pareil. Alors de toute manière, c'est souvent le bébé qui de lui-même va téter moins longtemps et réclamer plus souvent. Si ce n'est pas le cas, et ben c'est la maman qui va faire des tétées plus courtes et plus fréquentes.
Et est-ce qu'il y a un intérêt, par exemple, à surélever un petit peu la tête du bébé, ou des fois on voit des cales bébé. Est-ce que c'est utile de faire ça pour le coucher ou pas ?
Alors, sur les formes graves, c'est ce qui est fait à l'hôpital pour aider à la respiration. À la maison, déjà, normalement, il n'est pas en grande gêne respiratoire quand il reste à la maison. Mais on ne le conseille pas forcément parce que ça ne va pas forcément l'aider. Et surtout parce que c'est compliqué à faire et que le bébé risque de tomber. Que si on rajoute des choses sur le matelas, il va risquer aussi d'aller s'y enfouir, s'y étouffer. Et donc, quand c'est plus dangereux que bénéfique, et ben on ne fait pas, on ne conseille pas.
Et au niveau du lavage de nez, tout à l'heure, vous parliez de seringues. Comment ça se présente ? Qu'est-ce que c'est comme une pipette ? On prend une seringue n'importe laquelle.
C'est comme une seringue pour injecter les médicaments ou comme une seringue pour donner le Doliprane. Et en bout, souvent, on peut rajouter un petit embout en silicone qui sera plus doux à l'entrée du nez du bébé. Et tout simplement, on va venir aspirer dans une bouteille le sérum physiologique, hein, qui reste tout simplement de l'eau légèrement salée. Et puis, on va aller l'injecter doucement, lentement, progressivement, mais bien comme il faut, dans le nez du bébé, en mettant bien la tête du bébé sur le côté afin de ne pas aller jusqu'au fond des voies respiratoires. Et on va faire ça pareil dans l'autre narine en mettant la tête de l'autre côté.
Même si la latéralité est parfois difficile à maintenir.
Il faut effectivement. C'est quelque chose que les bébés n'aiment pas. C'est donc quelque chose qui est difficile à faire quand on est parent, parce qu'on sait qu'on va embêter notre bébé pendant quelques secondes, minutes. Mais c'est quelque chose qui est indispensable. Et donc, il faut bien le mettre sur le côté, se dire qu'on va bien le tenir un bon coup, bien lui laver le nez, que ça va être un moment difficile, mais pour qu'il se sente mieux après.
Et donc, c'est avant les biberons ou les tétés, avant le coucher, on peut faire ça 5, 6, plus s'il y a besoin. Quoi.
C'est à volonté. Oui, il n'y a aucun risque à le faire. Il y a souvent des gens qui pensent que c'est dangereux de le faire trop. Non, pas du tout, au contraire.
Donc, si c'est réutilisable, la seringue, l'embout, tout ça, il faut bien savonner, bien nettoyer à chaque fois, parce que j'imagine que sinon, la bouteille, c'est un microbe.
Évidemment. Alors, bon, l'enfant, il est déjà infecté par le virus. Donc, ça, voilà. Par contre, dans le nez, il y a aussi plein de bactéries, de manière normale. Et surtout quand les sécrétions sont jaunes, vertes. Et du coup, mais ça reste normal. Mais par contre, voilà, il faut éviter que ça masse et que ça pullule dans la seringue. Et donc, il faut bien rincer cette seringue après utilisation, oui.
Au niveau de l'hospitalisation, quand ils sont hospitalisés, est-ce que c'est une hospitalisation longue ? Comment ça se passe ?
Eh bien, c'est très variable. C'est quand les bébés sont hospitalisés, ça peut être soit parce qu'ils ont eu du mal à respirer ou qu'ils font ces fameuses apnées, ces pauses respiratoires. À ce moment-là, ils vont avoir soit un peu d'oxygène dans le nez, soit des aides ventilatoires beaucoup plus importantes en soins intensifs, voire parfois en réanimation. Et ça, ça peut durer quelques jours comme de nombreuses semaines. L'autre chose qu'on fait à l'hôpital, c'est quand le bébé est vraiment trop épuisé pour pouvoir manger quoi que ce soit, à ce moment-là, on va lui apporter directement le lait dans l'estomac sans qu'il ait à se fatiguer à téter par une sonde qui va de la bouche jusque directement dans l'estomac. Pareil, ça va durer le temps que le bébé ait la force de reboire. C'est vraiment les deux principales choses qu'on fait lorsque les bébés sont hospitalisés pour bronchiolite.
La place des parents dans l'hospitalisation ?
Alors, de nos jours et dans tous les hôpitaux du coin que je connais, les parents, évidemment, restent auprès de leur bébé pour le soutenir, pour les soutenir, eux, dans ce moment difficile. À l'hôpital de Villefranche du Territoire, par exemple, les parents restent en chambre. Les deux parents peuvent rester s'ils veulent. Malheureusement, la place dans les chambres reste limitée. Mais jamais un bébé ne restera seul. Si le parent souhaite rester, on lui trouvera toujours un lit ou une chaise quand vraiment c'est difficile.
Et la durée à peu près de la bronchiolite, du coup, c'est à peu près, c'est combien ? C'est 15 jours
Alors, la maladie, c'est entre 2 et 4 semaines, en effet. C'est vrai que c'est important à savoir parce que ça ne sert à rien de reconsulter parce qu'il tousse toujours. Oui, on sait, il va tousser pendant plusieurs semaines. Ce n'est pas un critère de gravité, il n'y a rien d'autre à faire. Si on revient sur les traitements, les sirops contre la toux ne servent à rien. Premièrement, ils ne sont pas efficaces. Deuxièmement, ils peuvent parfois être dangereux quand l'enfant a du mal à respirer.
Vous pensez aux fluidifiants, j'imagine ?
Alors, je pense surtout aux sirops qui bloquent la toux. Les fluidifiants ne sont pas efficaces. De principe, quand un bébé a déjà du mal à me boire son lait, on va éviter de lui faire boire en plus plein de médicaments qui ne servent à rien. Parfois, les médecins peuvent être amenés à prescrire certains médicaments, comme de la ventoline. Ce n'est pas un traitement nécessaire dans la bronchiolite. Par contre, on l'essaye parfois chez les bébés un peu plus grands, plus de 6 mois, surtout plus d'un an, parce que ça peut parfois les soulager. Donc, on peut essayer. Pareil, tout ce qui est corticoïdes, le célestène chez les bébés, ce n'est pas un traitement qui améliore la bronchiolite, mais parfois... Quand la phase grasse dure très longtemps, qu'il y a énormément de glaire, on peut essayer pour voir si ça soulage le bébé. Antibiotiques, évidemment, aucune efficacité. C'est une maladie due à un virus. Les antibiotiques tuent les bactéries. Pareil, parfois, à la fin, quand il y a une surinfection, on peut être amené à en prescrire.
Et la kiné, peut-être aussi.
On va peut-être y venir après. Dans le dernier temps de la chronique.
Dernier traitement, le doliprane, ça ne va pas soigner la maladie, ça ne va pas améliorer l'enfant. Par contre, évidemment, la bronchiolite, je ne l'ai pas encore dit, mais c'est une maladie qui peut donner et beaucoup de fièvre. Ça reste normal, surtout au début de la maladie, donc on peut donner du doliprane pour la fièvre.
Dernier point, revenons sur la toux. Vous avez dit qu'elle allait durer un certain temps ou un temps certain. J'imagine que les derniers temps, c'est une toux sèche. On est bien d'accord. Et les premiers temps, on est plutôt sur une toux rauque, grasse, pas forcément.
Non, au contraire. Au début, c'est plutôt une toux sèche. Okay. Les toutes petites bronchioles sont atteintes. C'est assez sec. C'est une toux aussi qui est liée, je vous avais dit, le virus atteint les centres respiratoires, les centres de la toux dans le cerveau. Donc, c'est une toux qui évolue par elle-même. C'est des longues, longues quintes qui sont fatigantes. Et c'est ça aussi qui crée les apnées au bout d'un moment. Donc, en général, c'est une rhino avec une toux sèche en courte quinte qui peuvent être assez espacées dans la journée. Après, à la phase de plateau, ça va vraiment être des longues quintes fatigantes et toute la journée, toute la nuit. Et dans la phase grasse, ça va être une toux beaucoup plus grasse. Donc, on a l'impression que l'enfant a des glaires. On a envie de tousser pour lui, pour l'aider à sortir ses glaires. La toux est rarement rauque. Ça, c'est l'apanage des laryngites chez les grands-enfants.
Est-ce qu'il y a une utilité d'avoir un saturomètre à la maison ?
Alors, c'est vrai que le taux d'oxygène, hein, que c'est ce qu'on mesure avec un saturomètre, est un des critères qui nous fait dire si le bébé, l'enfant est en gêne respiratoire importante, en détresse respiratoire. À la maison, ça va être un petit peu compliqué. Pourquoi ? Parce que les saturomètres qui sont vendus en pharmacie sont des saturomètres pour adultes et que les doigts des tout petits bébés ne vont pas rentrer dedans, ou alors s'ils rentrent, ça va être mal capté et on va avoir des parents qui vont se retrouver avec des taux d'oxygène qui paraissent très bas, mais en fait c'est tout simplement parce que l'appareil ne capte pas bien le pouls du bébé, donc ce n'est pas quelque chose qui va être faisable à domicile.
Vous avez des capteurs très spécifiques ?
À l'hôpital, il y a des capteurs qui marchent très bien chez les bébés. En cabinet, c'est compliqué d'avoir des aussi bons appareils. Cela dit, on est comme les parents, on va avoir d'autres critères pour évaluer la gêne respiratoire des bébés. Et voilà, quand on est parent, cette gêne respiratoire, on va la voir surtout avec un bébé qui est fatigué, essoufflé pour boire ses biberons, un bébé qui est mou et un bébé qui est pâle.
Le tirage, on en parle ou pas ?
Alors c'est des signes que les médecins sont bien habitués à détecter pour évaluer la détresse respiratoire. Pour vous, parents, ça peut parfois être difficile, mais c'est vrai que si vous voyez que l'enfant creuse entre les côtes et creuse profondément le ventre à chaque respiration, c'est vraiment qu'il a du mal à respirer.
Merci. Santé Beaujolais d'Ombe,
l'émission de santé du territoire.
Vous êtes sur Radio Calade et vous venez d'écouter
The Man Who Sold the World de Nirvana.
La place de la kinésithérapie dans la bronchiolite.
Alors, c'est vrai que pendant très longtemps, on a fait beaucoup de kinésithérapie dans la bronchiolite, anciennement clapping qui avait été interdit car dangereux depuis longtemps, mais du drainage bronchique pour essayer de faire sortir ces glaires qui encombrent les petites bronches des bébés. En fait, on s'est rendu compte que, en dehors du fait que c'était coûteux, que c'était compliqué pour les parents d'amener leur bébé chez le kiné, et que c'était des séances parfois vécues un petit peu difficilement pour l'enfant, on s'est rendu compte que ça ne diminuait ni la durée de la maladie, ni l'évolution vers une forme plus grave. Évidemment, quand on va venir drainer les bronches par une séance de kinésithérapie, ça va soulager le bébé, mais en fait, ce soulagement n'est que temporaire. Par contre, lorsque les parents sont un petit peu en difficulté pour laver le nez de leurs enfants, l'aider à dégager, surveiller comment ça évolue, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter, et ben là, le kiné est vraiment un acteur de soins en libéral, à proximité, qui peut aider. Pour les enfants qui ont des pathologies particulières, là, ça va être vraiment utile aussi.
Donc on a parlé bronchiolite. Si on prend d'autres maladies infantiles fréquentes,
comme la gastro par exemple.
Comme la gastro,
est-ce qu'on peut juste rapidement dire ce que c'est et puis comment on se rend compte que c'est une gastro-entérite?
C'est vrai que l'hiver est propice à beaucoup d'infections pour les bébés. On parle beaucoup des épidémies de bronchiolite, c'est assez impressionnant. Pour nous pédiatres, on est aussi inquiets lors de l'épidémie de gastro-entérite aiguë parce que les petits bébés sont aussi à risque de très vite se déshydrater lorsqu'ils ont une forte diarrhée. Donc la gastro-entérite aiguë est due au rotavirus, hein, c'est vraiment le virus qui est présent en hiver. Il y a plein d'autres virus qui peuvent donner des gastro, évidemment. Celui-ci va donner des gastro très intenses avec des fortes diarrhées, parfois aussi des forts vomissements, parfois beaucoup de fièvre, et tout ça va venir déshydrater le bébé et parfois même les grands enfants. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, pareil, éviter de l'attraper en se lavant les mains, en évitant, en séparant avec les personnes qui sont malades. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les parents d'enfants en bas âge doivent avoir à la maison un soluté de réhydratation orale, qui est tout simplement de l'eau avec du sucre et du sel, choses qui sont en perte dans la diarrhée et qui vont venir aggraver la déshydratation. Et ça permettra de le dégainer dès que l'enfant commence à avoir la diarrhée pour tout de suite venir le réhydrater, même si ça commence dans la nuit, même si ça commence dans le week-end. Ça évite d'aller courir chez le médecin, aux urgences, à la pharmacie. Et c'est pareil, l'unique chose à faire en cas de gastro-entérite aiguë, c'est proposer du soluté de réhydratation, évidemment. C'est de l'eau sucrée salée, c'est dégueulasse, donc l'enfant ne va peut-être pas en vouloir. Par contre, je peux vous dire que quand ils sont déshydratés, ils se jettent dessus, ils ont soif de sel. Et donc, il faut le proposer. S'il n'en veut pas, tant mieux. Il boit ses biberons, il se réhydrate avec. Par contre, quand il est vraiment fatigué, qu'il y a une forte diarrhée, qu'il commence à se déshydrater, ben là, il va le boire. Il va falloir le proposer en petite quantité pour éviter qu'il revomisse, mais à répétition, tous les quarts d'heure, tout au long de la journée.
Et peut-être qu'on peut conseiller aussi aux parents de le mettre au frigo, comme ça, des fois frais, ça, non, il n'y a pas besoin.
Alors, le froid, ça va peut-être diminuer la nausée, les vomissements, oui.
D'accord.
Oui.
Mais du coup, comment on sait exactement quand l'utiliser, finalement? C'est vraiment quand on constate qu'il y a trop de diarrhée, que c'est trop conséquent, qu'il y a des vomissements et que l'enfant mange moins?
C'est surtout des diarrhées répétées. Hein. C'est vrai que
quelle durée?
La gastro qui déshydrate, ça peut être une couche d'eau verte tous les quarts d'heure. Mais il va falloir, pour répondre à votre question, il va falloir dégainer ce soluté de réhydratation dès la moindre diarrhée. Après, si la diarrhée n'est pas très intense, si l'enfant boit un minimum son lait habituel, ça va suffire à l'hydrater. Par contre, à partir du moment où la diarrhée va devenir plus intense, ça va vraiment être efficace et sauver des vies.
Donc on le sort et on le propose en fait.
On le sort et on le propose. L'enfant n'en veut pas, c'est peut-être qu'il n'est pas assez déshydraté, ou alors c'est qu'il est complètement dans les choux, mais ça, vous allez le voir par ailleurs. Donc, on le propose, et puis, comme ça, le moment où il va se déshydrater, bah, hop, il va le boire, et là, on va éviter une aggravation.
Si on peut juste revenir au niveau de la prévention pour la gastro, vous disiez qu'il faut bien se laver les mains, il faut aussi bien nettoyer les surfaces, les poignées de porte, etc., je crois, parce que c'est là que c'est un virus qui se transmet par le contact.
Pareil, c'est un virus qui est très, très, très contagieux, c'est un virus qui reste vivant très longtemps sur les surfaces, donc principalement nos mains, et puis après, tout évidemment, toutes les surfaces qu'on touche, et ça, c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas fréquemment, mais désinfecter, un petit coup de Javel, tout ce qu'on touche fréquemment, les poignées de porte, les poignées de robinet, la poignée du frigo.
Les interrupteurs.
Et à partir de quel moment il faut s'inquiéter en termes de durée? C'est-à-dire qu'une gastro classique, elle dure combien de temps?
Pareil, c'est très variable, ça peut durer de quelques heures à de nombreuses semaines. Du coup, on ne s'inquiète pas forcément si ça dure. On va s'inquiéter si la diarrhée est intense, parce que là, il y a un risque de déshydratation. Comment on va voir la déshydratation? Il ne faut pas attendre que de voir son bébé avec les lèvres toutes sèches. On surveille le poids, parce que le premier signe de perte d'eau, c'est qu'il va perdre des grammes, des kilos. Donc, il faut peser son enfant, au mieux chez le médecin, qui va pouvoir aussi évaluer tout le reste. Mais évidemment, on ne va pas aller tous les jours chez le médecin. Du coup, on peut peser son enfant sur des petites balances à la maison ou en pharmacie. Les pharmacies ont des pèses bébés, peuvent parfois rendre ce service.
Santé Beaujolais d'Ombe, l'émission de santé du territoire. Vous êtes sur Radio Calade et vous venez d'écouter
The Kids Aren't Alright de The Offspring.
Nous avons découvert une maladie virale touchant les poumons et allant généralement vers la guérison. Des gestes, des habitudes simples peuvent diminuer les risques de contagiosité. Si malgré tout, elle n'a pas pu être évitée, les parents doivent repérer la bronchiolite et avoir la bonne surveillance à adopter dans de pareilles situations. Si vous avez besoin de consulter un médecin généraliste et que le vôtre est indisponible ou que vous n'en avez pas, vous pouvez joindre le 15. En fonction de l'état de votre enfant, le service d'accès aux soins, ce qu'on appelle le SAS, vous redirigera vers notre équipe de territoire, donc la CPTS Beaujolais d'Ombes, afin de vous trouver un rendez-vous avec un médecin le plus proche de votre secteur, du lundi au vendredi de 9h à 16h30. Si vous avez manqué une partie de notre émission, ayez le réflexe podcast disponible donc sur le site de Radio Calade. Docteur Céline Lagrange, un grand merci pour votre participation et à bientôt, nous l'espérons.
Merci à vous pour votre accueil.
Marie, Alexandra, Cécile, même heure, même endroit, le mois prochain pour une nouvelle chronique dans Santé Beaujolais d'Ombes. Au revoir à tous.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Santé Beaujolais d'Ombes, l'émission de santé du territoire.
Santé Beaujolais d'Ombes.
Calade.